Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. On s'intéresse à un secteur qui va bien, celui des services à la personne. Nous recevons Arnaud Garrigue. Son entreprise est spécialisée dans l'aide à domicile. Aquarelle recrute une cinquantaine de personnes sur Toulouse et l'agglomération. Bonjour Arnaud Garrigue.
Bonjour.
Vous êtes aux commandes d'Aquarelle, une entreprise de services à la personne qui existe déjà depuis 15 ans. C'est un réseau de franchises France entière.
C'est ça. C'est un réseau qui est né à Toulouse. Moi, je suis moi-même toulousain. Et c'est un réseau qui est né ici et qui a commencé à se développer sur la région toulousaine pour s'étendre après sur la France entière.
Alors, quelle est votre spécificité chez Aquarelle ? Quand on dit service à la personne, c'est large. C'est service aux personnes en situation de handicap ?
Alors, pas uniquement. C'est-à-dire que c'est un réseau d'agences qui s'adresse plus particulièrement aux seniors.
Oui.
Mais aux seniors de 60 ans jusqu'à la perte d'autonomie complète, y compris après les personnes accidentées ou handicapées.
D'accord, ok. Les personnes donc en perte d'autonomie, ça nécessite un accompagnement particulier. On parle d'auxiliaire de vie ou on parle à ce moment-là d'aide-soignante ?
Alors, on parle d'auxiliaire de vie. Alors, auxiliaire de vie, c'était un terme lié à un diplôme qui, à ce jour, n'existe plus, mais maintenant, on parle d'assistante de vie aux familles,
D'accord.
Voilà, qui est un peu plus général. Mais oui, effectivement, ce sont des auxiliaires de vie qui ont des diplômes, qui ont de l'expérience et qui interviennent auprès de personnes en perte d'autonomie et qui ont la vocation et la capacité de toucher les personnes et de les manipuler. Donc, effectuer des transferts, les assister dans les actes essentiels de leur vie quotidienne. Elles remplissent toute cette fonction.
Il y a une formation particulière pour ce métier ? Il faut un agrément ? Comment ça fonctionne ?
Alors, pour effectuer des prestations auprès de personnes en perte d'autonomie, il faut un régime légal. Il en existe deux, c'est un petit peu complexe, mais il existe l'autorisation qui est attribuée par le conseil départemental ou l'agrément qui est attribué par la directe et qui nous oblige à répondre à un cahier des charges qui est très strict et par lequel nous devons en permanence rendre des comptes auprès de nos organismes de tutelle.
Oui, tout à fait, ce qui est logique.
Ce qui est normal. Ce qui est normal.
Alors, au service à la personne, on le disait il y a un instant, c'est effectivement très très large, très très vaste. Comment vous avez-vous créé votre entreprise il y a une quinzaine d'années ? J'ai envie de vous dire, si vous êtes aujourd'hui encore sur le marché, 15 ans, c'est un bel âge pour une entreprise, ça veut dire que vous avez une bonne carte de visite. Vous avez des garanties, des gages de sérieux ?
Il faut croire. Il faut croire, mais je pense que je ne crois pas au hasard. Donc, je me dis que quand même, il doit y avoir un travail qui est bien fait à la base. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne conçois pas créer quelque chose à court terme. Donc, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'essaye d'entreprendre, c'est avec une vocation de long terme. Ce qui veut dire par là que, y compris dans toutes les personnes qui travaillent avec moi, j'ai toujours essayé de mettre en place des relations à long terme, que ce soit au niveau des contrats et après leur capacité à évoluer, à se développer dans la structure, donc chez moi, dans mon agence, et en leur donnant aussi la capacité de prendre en charge des responsabilités. Voilà, donc déléguer assez rapidement, tout en maintenant un cadre et une communication et une discussion.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est ce que j'ai essayé aussi de faire et ce que je m'évertue à mettre en place également dans le réseau de franchises.
Parce qu'aujourd'hui, voilà. Vous avez combien de franchisés, en fait ? Sur toute la France,
Oui, le réseau a une dizaine de franchises. Il y en a 5 en région toulousaine, donc Toulouse-Centre, et puis après 4 autour, Blagnac, Castelginès, Palmar, Amonville. Et ensuite, il y en a, après en région parisienne, dans le Calvados et dans les Charentes-Maritimes.
Vous avez l'intention de vous étendre encore ?
Oui, le, C'est-à-dire que après, comment dire, je suis pas, j'ai pas des ambitions, des velléités de mailler le territoire national absolument, mais après, oui, le réseau s'étend petit à petit. Il y a des gens qui me contactent, on a pas mal de candidats là, à l'entrée dans la franchise, et donc je me développe tranquillement et en mettant en place voilà, les meilleures relations possibles avec les meilleurs candidats possibles.
Arnaud Garrigue, le secteur des services à la personne va bien, on le disait. D'ici 2 ans, hein, il y aura quelque chose comme plus de 20 000 postes créés, d'après les derniers chiffres du ministère du Travail. Sauf que c'est difficile de recruter dans ce secteur, vous le constatez?
Oui, effectivement, et tout le paradoxe est là, c'est-à-dire que c'est un métier en devenir, tant au niveau de la demande, parce que la demande va croître encore pendant les 10 prochaines années, les besoins vont augmenter, et donc c'est une filière qui est en capacité de recruter, mais un nombre colossal de salariés, et pour autant on est en manque et en besoin de salariés au quotidien.
Mais alors pourquoi? Parce que c'est
Voilà.
des petits boulots, parce que ça ne paye pas, parce que c'est
Alors,
difficile?
ce ne sont pas des petits boulots. Il y a une différence entre la réalité du terrain et l'image,
Oui,
peut-être,
c'est ça.
qui a historiquement été véhiculée. C'est l'image qu'ont les gens un petit peu de petits boulots, mais ça n'est pas un petit boulot. C'est un vrai travail avec des responsabilités, avec de l'engagement. Morale, empathique et de l'engagement aussi professionnel. Parce qu'il faut être professionnel, il y a un cadre à respecter, il y a une déontologie, il y a un cadre légal. Et donc tout ça, c'est ce que nous apportons aussi lorsqu'on recrute au travers de ce qu'on apporte à nos équipes. Il y a aussi le fait que les gens ne se sentent pas salariés souvent d'une entreprise puisqu'ils interviennent au domicile. Et non pas sur le lieu de l'entreprise. Et donc, ils se sentent un petit peu détachés. Et donc, tout le travail chez nous, chez Aquarelle, c'est de rester en communication en permanence avec nos salariés pour bien leur faire comprendre qu'ils sont membres d'une équipe. Donc, on réunit très régulièrement nos collaborateurs, on est en contact avec eux en permanence, le bureau est ouvert en permanence, ils peuvent venir nous voir. Voilà. Tout l'enjeu est de conserver du lien et de leur permettre d'évoluer. Donc on a créé des postes, plusieurs types de postes, qui permettent à celles ou à ceux qui le souhaitent d'évoluer au sein de notre structure.
Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour, j'allais dire, accompagner les salariés, quelque chose de plus que ne font pas les autres entreprises, peut-être, je ne sais pas, dans l'engagement, dans l'humain, dans les salaires aussi?
Alors évidemment, il y a des possibilités d'évolution salariale, mais le salaire, c'est important et à la fois ça ne l'est pas, parce que ce n'est pas ce qui va faire rester une personne qui est démotivée. Donc la difficulté dans ce travail, c'est la charge émotionnelle, surtout lorsque les personnes interviennent auprès de personnes en perte d'autonomie. Et donc il est très important pour la structure d'être à l'écoute de l'intervenant et lui permettre de poser un petit peu ses valises très régulièrement et de faire baisser sa charge émotionnelle. Voilà, d'être à l'écoute de sa fatigue, parce que c'est quand même un travail qui est bon, tous les travails sont fatigants, hein. Donc là, entre les trajets entre les bénéficiaires, savoir s'adapter, tout ça, il y a quand même une charge de fatigue
C'est
qui
ça peut
est.
être physique, hein, on est d'accord.
Exactement,
Ouais.
exactement. Donc il est important pour la direction et pour l'encadrement d'écouter les personnes.
Ouais, tout à fait.
Donc ça c'est très important. Donc c'est largement aussi important que le salaire. Et puis après, la capacité aussi de l'offrir aux salariés la capacité à progresser, à évoluer.
Puisqu'on parle de salaire, quels sont les salaires que vous proposez?
Ben, on démarre, donc ça démarre au SMIC.
Ouais.
Alors, bien évidemment, il y a aussi une grille conventionnelle, hein, donc on démarre en fonction de la grille conventionnelle, c'est-à-dire en fonction de la compétence des personnes. Et puis après, il y a une évolution salariale qui se fait en fonction de l'engagement de la personne dans son poste. et de la satisfaction de ses bénéficiaires.
Des sortes de primes, en fait, c'est ça?
Alors, des primes, oui, pas uniquement primes. Alors, il y a des primes, mais pas uniquement. Après, on peut augmenter son salaire. Après, son salaire augmente en fonction de son engagement et de la satisfaction des personnes chez qui elle intervient. Alors, il intervient, puisqu'on a de plus en plus d'hommes aussi. Donc, ça, il faut en parler, parce que j'y tiens.
Aujourd'hui, vous recrutez quel profil de salarié? Est-ce qu'il faut avoir une expérience pour postuler chez vous ou pas forcément?
Alors, j'ai envie de dire, normalement, il faut une expérience, mais j'ai envie de dire que je recrute n'importe quel profil. Parce que ce qui est, enfin, nous recrutons, puisque je ne suis pas le seul à recruter. Donc, il y a toutes les agences du secteur toulousain. Ce qui est important pour nous, c'est avant tout l'envie. Voilà. Et on a plutôt tendance à préférer quelqu'un qui n'est pas issu du secteur, mais qui a envie de travailler, plutôt qu'une personne qui a beaucoup d'expérience et qui est un peu désabusée et pas trop motivée. Voilà. Donc après, nous, dans nos structures, on accompagne les personnes qui n'ont pas la compétence nécessaire ou l'expérience nécessaire. On l'accompagne avec des interventions en binôme et on la fait monter après en compétence avec des formations. Des formations adaptées.
Alors justement, les formations, c'est hyper important, on en parle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des formations qui sont adaptées à ce type de métier? Alors, on sait qu'il y a par exemple des formations diplômantes, hein, bac plus 2, oui. Pour l'accompagnement de la personne, service à la personne. Est-ce que ça, c'est suffisant aujourd'hui ou il y a un vrai manque en France?
Alors, il y a des formations bac plus 2, mais il y a aussi et surtout des formations avec des niveaux beaucoup moins élevés, des niveaux type niveau 4 et niveau 5, c'est-à-dire avant le bac.
CAP,
niveau baccalauréat, voilà, CAP. Et donc ça, c'est très important parce que ça permet aux personnes qui ne sont pas diplômées du tout, eh bien, de pouvoir commencer à avoir une formation et donc permettre à certaines personnes qui n'ont pas du tout eu de formation, eh bien, de s'intégrer dans la société et de leur donner accès à la formation et après progresser dans en compétences dans leur profession.
Arnaud, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer aussi l'image? Parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué au début de cette émission, mais l'image quand même de ces métiers, vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer?
Absolument. Il faudrait vraiment un très très gros coup de pouce des médias. Ça, je vous remercie
au
travers de cette émission d'en parler. Voyez, la crise du Covid est un exemple flagrant. Donc, on a, et à juste titre, salué le personnel soignant, le personnel infirmier, qui ont fait un travail énorme, qui ont pris des risques. Leur but à eux, c'était de sauver des vies et de faire en sorte que de maintenir les capacités d'accueil des urgences médicales. Donc ça, ils ont fait un travail formidable. Personne ne le remet en cause. En revanche, le secteur qui a été un peu mis dans l'ombre, et que moi j'ai appelé les travailleurs de l'ombre, ce sont nos intervenants à nous. Alors, nos intervenants, je parle au nom du secteur. D'accord ? Et sans le travail qu'ont fait les auxiliaires de vie, les assistants de vie aux familles pour maintenir à domicile les personnes et faire en sorte qu'elles n'aillent pas grossir les unités d'urgence, ce travail-là a été un petit peu passé.
C'est vrai,
on a,
vous avez raison.
Je le regrette, on a peu parlé. On a parlé du bénévolat, c'était très bien, mais on n'a pas parlé du métier des gens qui ont continuer à travailler, au risque aussi de leur vie, hein, parce que bon, nous, tout le monde était équipé, tout ça, mais à un moment, quand il y avait pénurie de masques, ils intervenaient à leurs risques et périls, entre guillemets.
Oui, oui.
Et ils ont aussi contribué à l'effort pour éviter que maintenir les personnes à leur domicile le plus longtemps possible, pour pas qu'elles aillent dans les unités spécialisées ou dans les unités d'urgence. Pas forcément à cause du Covid, mais il aurait suffi qu'il y ait une personne qui tombe et qui se fracture un col du fémur. Eh bien, c'était quelqu'un de plus aux urgences qu'il fallait traiter aussi. Et qui sont, je trouve, un petit peu mis dans l'ombre. Et il serait temps de braquer un peu le projecteur sur eux, ce qui permettrait à la filière B2 de gagner en notoriété et aussi en image.
Merci beaucoup Arnaud Garrigue
Avec
pour
plaisir.
ces éléments, ces précisions. On rappelle donc l'adresse de votre site internet www.aquarelle-service.fr. Et merci à vous de nous écouter. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'Entreprendre. Focus dans cette émission sur un atelier de couture qui a su se mobiliser pendant la crise liée au Covid-19. Les ateliers du Lac à Fonsorbe. Isabelle et Robert Nadal ont fabriqué des masques pour les redistribuer aux associations ou au CHU Purpan. Une action, vous allez l'entendre, qui leur permet aujourd'hui de faire grandir leur entreprise. Bonjour Robert Nadal.
Bonjour.
Il se murmure à Fonsorbe que vous avez été très présent depuis le début de la crise. Racontez-nous votre histoire. Vous avez créé, Robert, avec votre épouse Isabelle, un atelier de couture. Il y a une dizaine d'années, c'est bien ça que vous êtes installé à Fonsorbe ?
Non, il y a plus de 20 ans. Nous sommes à Fonsorbe depuis 1998.
Plus de 20 ans à Fonsorbe.
Voilà.
Et vous étiez donc spécialisé dans la couture.
Oui,
alors racontez-nous votre histoire. Dans le textile depuis longtemps, c'est ça ?
Oui, dans le textile depuis très très longtemps, depuis 50 ans exactement. Voilà. 50 ans que nous sommes dans le textile, nous avons commencé par travailler pour des entreprises de prêt-à-porter, style Chipi, C17. Enfin, ça, c'est un nom qui va sonner à l'oreille de certains.
Ouais.
Voilà. Et de certaines personnes déjà,
oui.
déjà âgées. Voilà. Et puis, on a pris un petit virage dans les années 90. On avait fait plus ou moins le tour du prêt-à-porter. On a créé une griffe qui s'appelle les Ateliers du Lac, donc, et plutôt du linge de maison, rideaux, déco, etc. Et on s'est mis à confectionner pour les magasins revendeurs, les magasins de déco ou les stockistes tissus,
ouais.
Une collection. Voilà. Et on avait quand même pas mal de revendeurs en France. Puis nous avons décidé d'ouvrir un magasin à Fonsorbe, à 4 à 5 kilomètres de notre atelier. Et ce magasin, c'est Escapade Champêtre. Voilà.
D'accord, ok. On est sur des produits qui sont, on va dire, haut de gamme, sur de très belles
on
qualités.
Est des, hein oui, plutôt des produits moyenne gamme, mais très, très inspirés par le lin, les trousseaux anciens. Je ne sais pas si vous vous souvenez
oui,
des trousseaux.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Un peu vintage, d'accord.
Voilà, transformation de produits. On transformait des vieux draps en rideaux, enfin voilà. Des sacs de farine en coussin, mais donc on est surtout très très inspiré par le lin, le chanvre et les
matières naturelles.
Voilà, oui, les matières naturelles.
Donc,
ouais.
Donc Robert, vous avez connu toute l'époque du textile, puisque vous êtes dans le textile depuis 50 ans, c'est-à-dire
ouais.
qu'il y a quelques années encore, on fabriquait beaucoup, on achetait français, et vous avez vu
ouais.
tout ça disparaître.
On a vu tout ça disparaître, oui, j'étais bien placé pour les voir disparaître, puisque dans les années 80, après que l'Europe ait levé les quotas, vous savez que à l'époque, nous échangions, les Européens échangeaient avec les autres pays sous le régime des quotas, ce qui équilibrait les échanges entre pays sur des filières particulières comme le textile. Puis donc on a levé les quotas et ça a été la course à la délocalisation. Donc on a vu plus ou moins les entreprises péricliter. Et pendant un ou deux ans, moi j'ai travaillé dans le Tarn notamment à essayer de regrouper les sous-traitants, de les faire se doter d'un service commercial, d'un service créa, etc. Et puis de, je crois, 34 ou 35 000 ouvriers dans le textile, on est passé en quelques années à 2 à 3 000, 2 à 3 000, et donc et la région a perdu complètement son
Son savoir-faire. Hein.
Son savoir-faire textile. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a eu l'Ariège, notamment, avec les tisseurs, le Tarn avec les bonnetiers et les mégissiers. Voilà, tout ça, ça a plus ou moins disparu.
Et vous êtes arrivé, et vous revenez, parce qu'en fait, cette crise liée au Covid-19, lorsqu'elle a commencé, vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est peut-être la fin de notre activité, mais vous avez vite réagi.
Oui, vite réagi, oui. D'abord, la fin de notre activité, on en était quasi certain. Et bon, un copain est venu nous voir parce que une association avait besoin de masques sur Fonsorbe. On a commencé à mettre un petit masque au point qu'on a distribué. Puis sont venus les Restos du Cœur de la Haute-Garonne, les Restos du Cœur de l'Aude, 4 ou 5 EHPAD, Secours catholique, Secours populaire, etc., etc. Donc on a marché là-dedans. On avait du tissu en stock, on avait des fournitures, on connaissait bien le job et les fournitures à employer. Et donc c'est parti comme ça. Puis on a reçu une commande, mais la payante, bien entendu, du CHU, et ça nous a donné l'idée à la fin, pratiquement à la fin du confinement, vers la fin avril, de contacter des entreprises, de développer tout ça. Et donc dès la première semaine de mai, évidemment, c'est parti sur les chapeaux de roue. Donc, on s'est mis à fabriquer du masque, on s'est mis à fabriquer des surblouses, etc. Et allez, ça nous a finalement maintenu un peu en dessus du niveau de l'eau.
Ouais,
donc,
ouais.
On a passé les 2 mois sans trop de dégâts, sans trop de pertes. Donc, ça nous a donné l'idée d'essayer d'ajouter une petite spécialité à l'activité qu'on avait déjà. Et on a rapproché, on a saisi une occasion. Là, on avait un local à côté de notre magasin et on a saisi l'occasion pour y installer l'atelier sur un espace un petit peu plus important. Donc, on a un atelier de maintenant à peu près 250 mètres carrés.
Ouais, c'est pas mal.
Un magasin de 200 mètres carrés qui est mitoyen. Bon, on a un peu élargi l'offre en essayant de travailler toujours localement et avec un maximum d'interventions. Et on prévoit même normalement d'embaucher 2 ou 3 personnes.
J'allais vous poser la question.
Peut-être bien. Oui, voilà.
Quel type d'embauche, de profil? Plutôt des couturières?
Dans un premier temps, des opératrices. Alors, ça s'appelle une mécanicienne en confection. Ça ne veut pas dire qu'elle répare des machines. Ça veut dire qu'une mécanicienne en confection est en général une multispécialiste des machines. Donc, c'est une opératrice. Bon, on peut appeler couturière, mais ce n'est pas exactement le terme. Et donc, elle qui connaît bien les 4 ou 5 piqueuses industrielles qu'on emploie dans des cas comme ça. Alors, il y a la piqueuse plate, il y a la surjeteuse, la pointe d'arène, etc.
Ce sont des métiers, Robert, je vous coupe, ce sont des métiers disparus qui sont en train de revenir.
Non, ils ne reviennent pas parce qu'il n'y a pas tellement d'écoles spécialisées.
Ah, oui, oui.
Donc, bon, nous, on peut les former. Ça a été un peu notre métier pendant 1 ou 2 ans.
Uh-huh.
On peut les former, mais il y a encore une génération avec ce savoir-faire. Donc, cette génération, hélas, c'est déjà au-delà de la cinquantaine, bien sûr. Après, des bonnes opératrices, on peut les former en atelier. Bon, au bout de 6 mois, quelqu'un qui est très impliqué arrive à avoir des rythmes et une gestuelle adaptée. Il n'y a pas de souci.
Ouais, voilà. Ouais, ouais. Vous voulez dire que là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à transmettre?
Au tout début, nous, les interlocuteurs qu'on a eus et surtout le cahier de charge qu'on recevait de la part de l'État ou des pouvoirs publics en général, ils essayaient de pousser les entreprises à se redévelopper ou à se redéployer autour d'une commande peut-être publique ou peut-être professionnelle de matériel de protection, notamment les masques, les surblouses, en essayant justement d'éviter tout le jetable, d'éviter les importations, donc réutilisé. Il y avait une espèce de demande groupée pour en même temps exécuter un cahier de charges qui permettrait aux entreprises de s'appuyer sur de la commande et se redévelopper. On n'allait pas, évidemment, les faire ressurgir d'outre-tombe comme le phénix, mais on peut peut-être, s'il y a quelques commandes récurrentes, commandes publiques notamment,
Ouais,
hein,
ouais.
les commandes d'entreprises récurrentes, c'est-à-dire qui nous laissent le temps de nous organiser, voilà, et que ces commandes soient réparties sur plusieurs mois, quelques entreprises vont se redévelopper, ça c'est à peu
Vous
près
y
certain.
croyez, vous croyez que c'est un, on va pas dire, on va pas dire le retour de la filière textile parce que c'est peut-être
Non,
un
non,
bien
non,
grand
non,
mot,
non,
mais c'est
pas du tout.
peut-être il y a l'émergence de quelque chose.
Voilà, oui. À un petit niveau, à un niveau raisonnable, oui. Parce
Oui.
qu'après, on rentre dans l'industrie textile, ça n'est pas du tout le même
C'est
métier.
ça,
Voilà.
oui.
Nous avions, il y a une trentaine d'années, dans pratiquement tous les villages de l'Aude, un petit façonnier qui avait entre 10 et 15 employés. C'est enfin, les villages de l'Aude de 400-500 habitants avaient leur façonnier. Et ça, il est possible que ça renaisse un peu. Mais les gros donneurs d'ordre iront pendant encore longtemps dans la délocalisation. Ils peuvent pas. Comme ça, d'emblée,
Du jour au
faire. Non, non.
lendemain, oui, tout à fait,
Ouais, non,
tout
non,
à
c'est
fait,
pas
tout à fait. On
possible.
n'a pas les
Voilà.
structures
Non, non,
pour.
là, on reste avec les pieds sur terre. On sait que c'est une opportunité pour garder certaines entreprises, très petites entreprises, entre 10 et 20 personnes. Ça, il est très possible qu'elles se redéploient. Oui, moi, j'y crois un peu. Après, le reste et toutes les annonces, non, 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 c'est impossible, c'est irréel.
Mais du
Voilà.
micro local, c'est ça aussi, l'emploi, il est à côté de chez soi?
Ben voilà, mais non, mais c'est ça qui est intéressant. 10-15 personnes dans un village de 500-600 personnes, pourquoi pas?
Bien sûr, bien sûr.
Oui. Et évidemment, à la prochaine crise, on pourra mobiliser et rapidement mobiliser, puisque ce qui était irréel, irréalisable enfin, qui faisait partie un peu du rêve, c'est de dire, voilà, nous avons une commande de 200 000 masques, et on va là, et dans 15 jours, les entreprises textiles du Sud-Ouest vont nous livrer. C'est impossible, c'était impossible. Mais si on arrive à combiner les anciennes habitudes, c'est-à-dire le coup de téléphone nazi, et puis participer un peu, là je parle des donneurs d'ordre, participer un peu à l'éclosion de quelques petites entreprises organisées, pourquoi pas?
Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation dans le goût d'entreprendre. Merci Robert Nadal. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radioprésence.com.